le programme. Bonsoir.
Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manila qui à la présentation de cette édition du mercredi 29 décembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Darfour, région de l'ouest du Soudan, un groupe armé pille près de 2000 tonnes d'aide alimentaire, indique l'OPAM. Le Niger expulse 8 Rwandais impliqués dans le génocide de 1994. Harry Reid, ancien chef démocrate du Sénat américain, est mort hier à 82 ans. Une pluie d'hommages du côté démocrate a rapidement suivi l'annonce de son décès. Flambée de la pandémie de Covid-19 avec des records de contamination dans le monde, l'OMS met en garde contre un risque très élevé lié au variant Omicron. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Un groupe armé a pillé près de 2000 tonnes d'aide du programme alimentaire mondial au Darfour, région de l'ouest et du Soudan, ravagée par la violence. Les précisions avec Jacques Aristide.
De nombreux tirs ont été entendus hier soir à Al-Fasher, chef-lieu du Darfour Nord. D'après les habitants, le PAM, le programme alimentaire mondial, évaluait aujourd'hui ce qui a été volé dans les hangars qui abritaient des tonnes de produits alimentaires. Une personne sur trois au Soudan a besoin d'aide humanitaire, indique Kardiata Lonzai, numéro 2 de la mission de l'ONU dans le pays. Pour elle, l'assistance humanitaire ne devrait jamais être une cible. Elle appelle Khartoum à augmenter les efforts pour protéger le travail humanitaire. Après l'attaque, un couvre-feu nocturne a été imposé à Al-Fasher, à Port Souna, l'agence de presse du gouvernement. La semaine dernière, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, avait déjà condamné des pillages et des violences près d'Al-Fasher. Le Darfour, région régulièrement secouée par des heurts, notamment provoquées par des disputes territoriale où les difficultés d'accès à l'eau a connu une longue guerre qui a fait depuis 2003 au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Pour ces exactions, la CPI, la Cour pénale internationale, veut juger Omar El-Béchir, le dictateur chassé en 2019 pour génocide et crimes contre l'humanité. Le groupe armé arabe Janjaweed est également accusé de nettoyage ethnique et de viol.
Les défenseurs des droits de l'homme au Sénégal appellent à la fin de la discrimination fondée sur les castes à la suite du refus des populations dans l'ouest du pays de laisser enterrer dans leur village une griotte pour ne pas attirer le malheur. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
Décédée le 25 décembre, la femme qui était membre de la caste des griots a été finalement inhumée mardi dans un village voisin après plusieurs jours de tension. Plusieurs organisations des droits de l'homme condamnent fermement cet acte illégal du chef de village de Poudagné et appellent les autorités étatiques compétentes à trouver sans délai une solution définitive à cette situation dans un communiqué publié mardi soir. Les griots sont considérés en Afrique de l'Ouest comme les dépositaires et les gardiens de la tradition. Cependant, une croyance populaire, persistant encore de manière isolée au Sénégal, les considère comme des êtres impurs. Pour cette raison, ils n'étaient pas dans le passé inhumés, mais leur corps était placé dans le creux des baobabs pour éviter de causer un malheur au village, selon les historiens. Cette pratique est interdite depuis plusieurs années par les autorités sénégalaises.
Le Niger a décidé d'expulser pour des raisons diplomatiques plusieurs Rwandais impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994, accueillis il y a quelques semaines à Niamey, selon un arrêté consulté mercredi, signé par Hamadou Amadou Soulé, le ministre nigérien de l'Intérieur. Huit noms sont listés, dont quatre génocidaires condamnés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda TPIR, l'ancien préfet de Butare, Alphonse Ndiaye, l'ancien patron du renseignement militaire Anatole Senghiyumva, le lieutenant-colonel Tarsis Mouvouni et le capitaine Innocence Garoutou qui ont purgé leur peine. Les quatre autres personnalités concernées ont été acquittées par le TPIR. Proté Zigiranyirazo, le frère de l'ex-première dame Agathe Habyarimana, considéré comme une figure du régime Hutu. François-Xavier Nzuonemeye, ex-commandant d'une unité d'élite de l'armée rwandaise. L'ex-ministre des Transports André Nagerura et l'ancien ministre de la Fondation publique Prosper Mugiraneza. Des intéressés seront mis en demeure de quitter le territoire de la République du Niger dans un délai de 7 jours, suivant la date de notification du présent arrêté, indique le texte, sans indiquer leur futur point de chute. Un célèbre écrivain et critique du gouvernement ougandais, Kakwenza Lukirabashaija, a été brutalement arrêté à son domicile de la capitale Kampala, a déclaré mercredi à l'AFP son avocat. Des hommes armés affirmant être de la police ougandaise se sont introduits mardi dans la maison de M. Lukirabashaija, tandis que celui-ci était au téléphone avec son avocat Aaron Kiza. Un entraîneur de taekwondo a été arrêté mardi par la police gabonaise pour des faits de pédophilie présumés sur de nombreuses victimes, a déclaré mercredi à l'AFP une source judiciaire. L'interpellation de Martin Avera, connu au Gabon sous le pseudonyme de Maître Tchaka, suit celle de Patrick Assoumou Eyi, l'ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans, accusé d'agression sexuelle présumée sur des centaines d'enfants. Après plus de deux semaines en mer, plus de 500 migrants ont commencé mercredi à débarquer en Sicile du navire qui est allé à leur secours, selon l'agence de presse italienne AGI. Mercredi matin, les migrants ont dans un premier temps été testés au Covid-19, tandis que trois personnes ont été transférées à l'hôpital, selon AGI. L'OACR estime que plus de 114 500 migrants ont réussi à rejoindre l'Europe depuis le début de l'année, se concentrant en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte. L'OACR estime par ailleurs que 1839 personnes ont perdu la vie ou ont disparu en tentant la traversée cette année.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien chef du Sénat américain Harry Reid, figure emblématique du Parti démocrate et de la scène politique aux États-Unis durant plusieurs décennies, est mort hier à l'âge de 82 ans. L'annonce a été faite mardi par son épouse. Les précisions de John Lyndon.
Il est mort paisiblement cet après-midi, a-t-elle déclaré dans un communiqué, précisant que le décès faisait suite à un combat de 4 ans contre un cancer du pancréas. Chef de la majorité au Sénat entre 2007 et 2015, l'élu démocrate aura été un personnage majeur de la fin de la présidence de George W. Bush et d'une grande partie des deux mandats de Barack Obama, notamment dans le passage de la loi sur la réforme de l'assurance maladie Obamacare. Une pluie d'hommages du côté démocrate a rapidement suivi l'annonce de son décès. Je ne serais pas devenu président si ça n'avait été pour tes encouragements et ton soutien, et je n'aurais jamais obtenu la plupart de ce que j'ai pu accomplir sans ton talent et ta détermination, a écrit Barack Obama. Le président Joe Biden a salué un géant de notre histoire. Bill Clinton a célébré le sens du compromis d'Harry Reid. Pour l'actuel chef du Sénat, le démocrate Chuck Schumer, Harry Reid n'a jamais oublié d'où il venait. Le chef des Républicains au Sénat américain, Mitch McConnell, a rappelé qu'Harry Reid a toujours fait ce qu'il pensait profondément et sincèrement juste pour le Nevada et pour le pays.
Le risque lié aux variants Omicron dans le monde reste très élevé, prévient l'OMS. Le monde a atteint de nouveaux records de contamination. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La France a établi ce mercredi un nouveau record de contamination, 208 000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Record quotidien aussi au Royaume-Uni avec près de 130 000 contaminations en Angleterre et au Pays de Galles. Les États-Unis ont enregistré hier une moyenne record de plus de 265 000 nouveaux cas quotidiens, d'après l'université Johns Hopkins. Les autorités sanitaires américaines ont averti que les tests antigéniques de dépistage du COVID-19 sont moins sensibles aux variants Omicron qu'aux précédents variants. Ces tests ont l'avantage de délivrer un résultat en quelques minutes, mais sont plus susceptibles d'indiquer un résultat négatif malgré une infection. L'Afrique du Sud, qui avait annoncé la fin du traçage des cas contacts de personnes testées positives, est revenue sur cette décision. La Suède exige un test COVID négatif pour tous les voyageurs arrivant sur son territoire. La Finlande n'autorise l'entrée qu'aux voyageurs étrangers munis d'un test COVID-19 négatif et d'une preuve de vaccination complète ou une infection passée. En Belgique, le Conseil d'État a suspendu la décision gouvernementale de fermer théâtres et salles de spectacle.
Israël a annoncé mercredi une série de mesures de confiance avec l'autorité palestinienne dans la foulée de la première visite officielle en Israël depuis 2010 du président palestinien Mahmoud Abbas pour y rencontrer le ministre de la Défense Benny Gantz. Ils ont discuté de questions de sécurité et d'économie. Dans la foulée de l'arrivée au pouvoir en juin du gouvernement de coalition mené par Naftali Bennett, des ministres israéliens, incluant Benny Gantz, ont rendu visite à Mahmoud Abbas à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. C'est le monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, retrouvez John Lyndon pour la Minute Éco.
Le Fonds de solidarité africain et le secrétariat exécutif de la Stratégie nationale des finances inclusives du Niger ont signé mardi à Niamey un accord cadre de coopération d'environ 17,2 millions de dollars. L'information est du site Financial Afrique qui, citant le directeur général du fonds, note que l'objectif de cet accord cadre est de contribuer de manière significative à l'amélioration de la situation du secteur de la microfinance au Niger. Quatre sociétés devraient bientôt obtenir leur licence commerciale et commencer à exercer dans le secteur minier en Tanzanie. C'est ce qu'indique la presse locale, information relayée par Financial Afrique. Le gouvernement tanzanien a exprimé sa confiance dans l'atteinte des 10% de contribution du secteur au produit intérieur brut d'ici 2025. Les dernières données officielles indiquent que la contribution du secteur minier au PIB s'établit à 6,9% contre un taux de 4,3% enregistré en 2014. Apple a annoncé mercredi avoir placé en période d'essai une usine indienne de son principal fournisseur après une vaste intoxication alimentaire et des manifestations pour dénoncer les conditions de vie des ouvriers. L'usine, située dans l'état de Tamil Nadu au sud du pays, emploie plus de 17 000 personnes et fabrique des iPhones pour le marché indien et l'export, ainsi que des accessoires. C'était la Minute Éco avec John Lyndon pour VO Afrique.
Et on enchaîne directement avec votre page sport. Élisée, on se patine. Bonsoir.
Oui, bonsoir Eric et bonsoir à tout le monde. La Coupe d'Afrique des Nations qui approche à moins de deux semaines du coup d'envoi. Certaines sélections rencontrent déjà de difficultés dans leur préparation, notamment le Maroc et le Cap-Vert qui devraient s'affronter en amical programmé pour ce vendredi à Agadir. Le match a été annulé. D'après les infos, les Lions de l'Atlas peinent à rassembler leur effectif. Pour l'heure, il n'y a que 15 joueurs qui ont répondu présents au rassemblement sur les 28 convoqués par le sélectionneur Vahid Halilhodžić. Côté requin bleu, la pandémie sévit déjà. Le défenseur Stopira a été testé positif au coronavirus et en même temps placé à l'isolement. Des cas positifs sont aussi signalés chez le champion d'Afrique en titre. À quelques jours de son match contre la Sierra Leone, l'Algérie a 3 de ses joueurs testés positifs au Covid-19 au sein de son groupe de 28 convoqués. Il s'agit de Youssef Belaïli et des défenseurs Mohamed Amine Tougaï et Youssine Benianda. Tous devront observer la période de quarantaine exigée par le protocole sanitaire avant de rallier le regroupement de la sélection, précise la Fédération algérienne de football. En raison de la possibilité laissée aux clubs européens de conserver leurs internationaux africains jusqu'au 3 janvier, seuls 11 joueurs étaient présents pour le début du regroupement à Doha. Coupe d'Afrique des clubs à présent et les équipes qualifiées pour les phases de groupe des interclubs de la CAF connaissent désormais leur calendrier des matchs de février à avril. Les deux tirages au sort effectués hier ont notamment permis en Ligue des Champions de réunir une nouvelle fois les Égyptiens d'Al Ahly tenant du titre et les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns dans le groupe A, également composé de deux clubs soudanais Al Hilal et El Merriek. Le groupe B, lui, sera formé de Raja de Casablanca, des Algériens de Sétif, des Sud-Africains d'Amazulu et des Guinéens du Oroya. Le groupe C, lui, sera très maghrébin avec l'Espérance de Tunis, l'Étoile du Sahel et les Algériens de Belouizdad, complété par les Botswanais de Galassi. Enfin, le groupe D, Wydad de Casablanca, Zamalek du Caire et double présence angolaise avec le Petro Atlético et Sagrada Esperanza.
C'était les sports de Élisée Oufatine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manela Kizado, retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les Sud-Africains se recueillent jeudi et vendredi devant la dépouille de Mgr Desmond Tutu, l'archevêque mort paisiblement dimanche à l'âge de 90 ans, reposera dans la cathédrale de Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse où ses obsèques auront lieu samedi. Après une incinération privée, ses cendres y seront inhumées. Notre correspondante à Johannesburg, Patricia Huon, a assisté à une cérémonie devant sa maison avec des membres de l'église anglicane ainsi que la maire de Johannesburg. Son reportage.
Le peuple de Soweto est ici pour dire au revoir à notre père, mais surtout pour le remercier pour celui qu'il a été.
Villa Kasi Street, Soweto, la seule rue au monde où ont vécu deux prix Nobel de la paix, Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu. C'est à ce dernier, décédé dimanche à l'âge de 90 ans, qu'un hommage a été rendu ce mercredi devant la maison dans laquelle il a vécu dans les années 70 et 80 sous l'apartheid. Rotsopego, un père de famille, a tenu à venir saluer sa mémoire accompagné de ses enfants.
Je suis venu ici parce que l'archevêque a joué un immense rôle dans ma vie. Il m'a appris à respecter les autres personnes. En Afrique du Sud, nous appelons ça Ubuntu, solidarité, être altruiste, aider tout le monde, peu importe sa couleur. Nous sommes tous des enfants de Dieu.
Prières, discours, des représentants de l'église anglicane ont pris la parole, ainsi que la nouvelle maire de Johannesburg, Mpopa Latse.
C'est l'archevêque Tutu qui a initié des mots « Nation arc-en-ciel ». Il a présenté l'Afrique du Sud comme un mélange riche de races, de cultures et d'autres diversités. Et c'était son souhait que nous voyions cela comme un cadeau, comme une force et pas comme une faiblesse. Il nous a montré comment construire des ponts et ne pas les brûler.
Les hommages à Desmond Tutu, icône de la lutte anti-apartheid, vont se poursuivre jusqu'à ses funérailles qui auront lieu ce samedi dans la ville du Cap. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'année 2021 aura été dominée au Nigeria par la situation d'insécurité que traverse le pays depuis plus d'une décennie, des enlèvements aux insurrections extrémistes dans presque tous les coins du pays. La crise sécuritaire a dominé l'année 2021. Gilbert Tamba revient sur les événements qui ont marqué 2021 au Nigeria.
Commençons par la campagne de vaccination. Le 5 mars, le pays le plus peuplé d'Afrique donnait le coup d'envoi de sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Certains Nigériens, comme Idioma, ont accepté de se faire vacciner, mais la majorité rejette encore le vaccin.
Oui, tout le monde cherche à empêcher la propagation du virus. Donc si la vaccination va m'aider à sécuriser mon système immunitaire, pourquoi pas? Parce que cela me rassure que je ne serai pas infecté une fois que je prends le vaccin. Donc c'est bon.
Je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faut prendre, parce que si vous regardez les chiffres de l'OMS, vous verrez que les gens qui ont pris le vaccin ont été infectés à nouveau par le même virus. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vaccin, à cause des rumeurs.
L'ampleur de l'insécurité menace le tissu même de la société nigériane. À chaque attaque, des vies humaines sont perdues ou endommagées de façon permanente et la stabilité du pays ainsi que la confiance en principes démocratiques diminue. Certains lient la récente montée de l'insécurité à la pauvreté à travers le pays. L'analyse de l'expert en sécurité, Kabiru Adamu.
Premièrement, c'est un phénomène international. Visiblement, partout dans le monde où vous avez un conflit pareil et la détérioration dans la sécurité, comme c'est le cas au Nigeria aujourd'hui, les écoles sont visées. En Afghanistan, au Pakistan et beaucoup d'autres endroits comme le Congo, c'est le cas.
Le djihadisme, les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, le banditisme et les enlèvements, l'insurrection séparatiste sont les plus grandes menaces de la sécurité du Nigeria. Autre fait marquant qui a attiré l'attention des Nigériens durant l'année 2021 est la suspension des activités de Twitter dans le pays. Cela fait déjà plus de 6 mois que le gouvernement nigérian a interdit Twitter après que le géant de la technologie a supprimé un message du président Muhammadu Buhari pour avoir enfreint ses règles sur le langage abusif. Une interdiction qui avait suscité beaucoup de réactions. Mais la décision de Twitter de supprimer le message du président Buhari, dans lequel il menaçait de violence contre un mouvement séparatiste, était-elle mal avisée? La réponse de ce blogueur nigérian Omojua Jafet.
Dans le contexte des débats autour de Biafra et de toutes les autres agitations en cours, ce n'était pas le bon moment de faire de telles déclarations avant d'aborder la question du tweet, mais ce n'était une ingérence dans nos affaires de la part de Twitter. Les Nigériens même avaient critiqué le tweet.
De nombreux Nigériens utilisent Twitter pour des besoins commerciaux, soit pour atteindre les clients, exposer leurs produits ou encore communiquer avec des partenaires. Mais le réseau social est aussi un important outil de contestation sociale au Nigeria. L'année 2021 qui s'achève aussi a été une année de renforcement des liens diplomatiques entre le Nigeria et les grandes nations du monde, avec notamment la visite du secrétaire d'État américain au Nigeria, Anthony Blinken, le 18 octobre. Anthony Blinken était venu à Abuja dans le cadre de sa 2e étape de son voyage dans 3 pays africains, notamment le Kenya, le Sénégal et le Nigeria. Les Nigériens attendaient beaucoup de la visite du secrétaire d'État américain. C'était le cas de l'activiste Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
La visite est la bienvenue. Cela démontre l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique, particulièrement les pays dans lesquels il effectue ce déplacement. C'est une visite symbolique.
Dans son discours au siège de la CDAO à Abuja, Anthony Blinken a déploré la situation dans la sous-région ouest africaine.
De nombreux Africains vivent aujourd'hui partiellement sous l'autorité du gouvernement militaire. Les autorités ont renversé les gouvernements civils à 4 reprises cette année. C'est le nombre de coups d'État le plus élevé en 4 décennies. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles concernant la démocratie en Afrique. Au Niger, nous avions assisté à un transfert pacifique du pouvoir. En Zambie, l'opposition a remporté l'élection, quelque chose que beaucoup ne croyaient pas être possible.
Les regards des Nigériens sont désormais tournés vers la nouvelle année, espérant avoir un changement de la situation sécuritaire du pays. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
La société de covoiturage Uber s'est associée au groupe de véhicules électriques suédo-kényan Opibus pour mettre en circulation 3000 motos électriques au Kenya et dans la région l'an prochain. Cette initiative est susceptible de réduire considérablement la pollution de l'air car les mototaxis emploient des millions d'Africains à travers le continent. De Nairobi, le reportage est de Juma Majanga. Le récit est signé Jacques Aristide.
Dans les rues de la capitale kényane, son engin n'émet pas de bruit de moteur ni de fumée noirâtre. Josephat Moutisso transporte un passager sur sa moto électrique. Il fait partie des premiers chauffeurs de mototaxi de Nairobi à remplacer les 2 roues à essence par l'électrique. Changement encouragé par le partenariat entre Uber et Opibus.
C'est très efficace. Cette moto est même beaucoup plus facile à conduire que l'autre. Vous voyez, vous n'avez pas tant de commandes. Vous avez juste l'accélérateur, pas d'embrayage. La seule chose à faire est de vous concentrer sur le frein avant et le frein arrière, ce qui vous permet d'avoir encore plus de contrôle sur la moto. Et c'est assez léger, ça ne vibre pas. Même les clients préfèrent celle-ci.
Les mototaxis, également appelés Boda Boda, sont le moyen de transport de plus en plus commun dans les villes africaines. Le PNU, comprenait le programme des Nations Unies pour l'environnement, a donné le coup d'envoi en mars dernier au premier projet de motos électriques au Kenya, ouvrant ainsi la voie à l'option électrique en Afrique, une transition accélérée par le partenariat Uber-Opibus. Alex Pitkin est le directeur technique d'Opibus.
Nous sommes ravis d'exposer autant de personnes que possible à la nouvelle technologie que nous avons créée afin qu'ils sachent que c'est une option. Uber offre évidemment beaucoup de services Boda Boda, c'est notre client cible. Souvent, les conducteurs ne savent pas à quel point les motos électriques peuvent être bénéfiques en termes d'économie d'argent, de sécurité, d'économie de carburant, d'entretien. Vous savez, ce genre de choses. Et la longévité du véhicule, ils ne le savent pas non plus.
Les véhicules électriques gagnent du terrain aux quatre coins du globe pour lutter contre la pollution et protéger l'environnement. Lucie Mugala est ingénieure à Opibus.
Cibler l'Afrique et les pays africains fait partie de ce mouvement. Et à Opibus, c'est ce que nous faisons. Nous voulons avancer tous ensemble. Nous voulons diriger tous vers une énergie plus verte, une économie plus verte. Et nous ne pouvons le faire que si nous nous rassemblons tous et que si nous nous responsabilisons tous et que si nous renforçons les capacités localement.
D'après des experts, la transition planétaire vers le transport électrique est vitale et de conclure que des conducteurs comme Joseph Atmoutisso en tireront profit.
Le président du Malawi a annoncé un plan visant à aider l'économie du pays à se remettre de l'impact de la pandémie de COVID-19. Ce plan, qui comprend des réductions des dépenses gouvernementales, fait suite aux protestations nationales contre la cherté de la vie au Malawi, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. À Blantyre, Lamek Massina s'est entretenu avec des analystes. Dilidiko raconte.
Le plan de relance économique du président Lazarus Chakwera a été annoncé deux jours après les critiques de son prédécesseur, Peter Mutharika, qui accuse l'administration Chakwera d'avoir ruiné l'économie du pays. Ce plan fait également suite à une série de manifestations nationales contre la cherté de la vie, aggravée par l'inflation qui a atteint 11%. Dans son discours à la Nation mardi soir, Chakwera a reconnu qu'il existe des problèmes économiques auxquels le pays est confronté.
Our economy is bleeding from four wounds at once.
Notre économie souffre de quatre maux. Le premier, une blessure à long terme est que notre économie a des limites structurelles. Il s'agit d'une économie basée sur l'agriculture avec une base de production restreinte.
Chakwera a expliqué que tout plan doit aider à restructurer l'économie en stimulant des secteurs comme l'exploitation minière, le développement des infrastructures et la production industrielle. Il a ajouté que la principale cause du ralentissement économique au Malawi est le COVID-19.
The third long-term wound our economy is bleeding from is the COVID-19 pandemic.
La troisième pathologie dont notre économie souffre est la pandémie de COVID-19, qui en est actuellement à sa quatrième vague. En plus d'infecter des pans entiers de la population, elle déchire le tissu de notre développement économique.
Depuis le début de la pandémie l'année dernière, le Malawi a enregistré plus de 60 000 cas et plus de 2 300 décès. À deux reprises, le gouvernement a déclaré une catastrophe nationale, accompagnée de plusieurs mesures restrictives. Chakwera a déclaré que bien que les restrictions aient sauvé des vies, elles ont inévitablement causé des dommages aux moyens de subsistance.
Le plan socio-économique que j'annonce aujourd'hui comprend des mesures visant à intensifier les efforts de vaccination de la population. Jusqu'à présent, seulement 500 000 de personnes sont complètement vaccinées, ce qui représente moins de 5% des 11 millions de personnes ciblées pour atteindre l'immunité collective.
Dans le cadre de l'application de ce plan, Chakwera a ordonné aux représentants du gouvernement de suivre son exemple en réduisant les dépenses. Malgré la promesse du gouvernement de moderniser et d'industrialiser l'économie, près de 80% des Malawites sont employés dans l'agriculture, selon un récent rapport de la Banque mondiale.
c'était la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Georges Léonard Stagnot et Josène Morissin. Éric Manrakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24. Restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellente soirée à vous tous et à la prochaine.